Dans la nef, des volutes de fumée s'échappent de l'encensoir. Un parfum poivré et enveloppant accompagne les fidèles dans leurs prières, leur temps de recueillement. Dans la liturgie chrétienne, l'encens est essentiel. C'est ce que nous explique Mgr Bernard Rousset. Il est l'évêque de La Rochelle et Sainte.
L'encens, c'est un parfum qui est symbole d'honneur. Vous le remarquez à l'Eucharistie, le célébrant encense d'abord les reliques du maître de l'autel sur lequel il va célébrer la messe, puisqu'en principe tout autel comporte des reliques de martyrs. Ensuite, il encense la parole de Dieu à l'évangile. Il encense ensuite les oblats, le pain et le vin, qui sont préparés pour devenir le corps et le sang du Christ. Et le servant d'autel encense le corps et le sang du Christ lorsqu'ils sont consacrés. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres moments où dans la liturgie on procède à un encensement, c'est lors des funérailles. Le corps du défunt est encensé puisque le défunt est devenu fils ou fille de Dieu par le baptême et il est appelé à partager la vie de la Trinité pour toujours, donc il a une dignité que manifeste l'encensement. Dans la liturgie catholique, l'encensement est signe d'honneur et de dignité.
Mais quel encens utiliser ? Celui des rois mages ou du pontifical ? Celui de Saint-Antoine, de Saint-Rita ou de Saint-Benoît ? 1000 noms pour 1000 couleurs. Sur Internet, les boutiques online en proposent des rouges, violets, bleutés ou jaunes. Difficile de trouver dans nos églises un encens qui soit naturel, récolté et transformé dans son pays d'origine, le Yémen, l'Érythrée ou encore l'Éthiopie. Extrait du documentaire de Frédéric Milano sur les traces de l'encens et la myrrhe.
L'Éthiopie se trouve au cœur de la zone qui s'étend du sud de la péninsule arabique à la corne de l'Afrique, dont sont originaires le libanum, appelé encens par les chrétiens, et la myrrhe. L'histoire de l'Éthiopie est intimement liée à celle des encens. Ce pays faisait partie du royaume de la mythique reine de Saba, qui apporta au roi Salomon le libanum et myrrhe en cadeau.
L'histoire de l'Éthiopie est liée à celle de l'encens comme à celle du christianisme. La présence des orthodoxes remonte au IVe siècle, faisant des Éthiopiens un des peuples chrétiens les plus anciens du monde. C'est donc tout naturellement là que s'est établi le projet Boswellia, du nom de cet arbre produisant l'olibanum. Un projet qui a de nombreuses finalités. La toute première, protéger cet arbre millénaire, car le Boswellia est aujourd'hui menacé de disparition. Des groupes privés, souvent étrangers, envoient en effet des saisonniers recueillir la sève de ces arbres, sa résine, puiser sans limite et sans précaution dans ces champs de forêt. Une surexploitation qu'ont décidé de contrer Julien Charbonnier et quatre de ses amis français et éthiopiens.
Tout a commencé au mois de novembre 2011 avec les résultats des publications de recherche scientifique qui sont parues dans le journal of Applied Ecology sur l'état alarmant des forêts d'arbres producteurs d'encens, donc les Boswellia, dans la région du Tigré. Pour être plus précis, ces études estiment qu'en maintenant le modèle de production, qui est plutôt intensif, 80% de l'encens d'Éthiopie aura disparu dans les 50 prochaines années. Pour être encore un peu plus précis sur les modes de gestion de ces forêts qui sont présentes au Tigré, donc, il y a d'une part le privé et le public. Le privé, c'est des terrains, des sites forestiers détenus par des entreprises qui emploient une main-d'œuvre extérieure à la région. Donc ces gens arrivent sans quelconque incitation à préserver la ressource sur le long terme. Et le second mode de management, c'est une gestion publique, collectivement gérée par les communautés de village aux alentours des sites forestiers, qui, elles, sont amenées à observer un mode de gestion intrinsèquement viable parce qu'il en va de leur propre survie dans ces zones rurales, arides. C'est leur propre survie qui est en jeu. Donc deux facteurs à prendre en compte dans la préservation de ces forêts, l'intensité de la récolte et également un paramètre qu'on appelle l'interférence, c'est-à-dire l'empreinte laissée par l'homme, qui pourrait être le déboisement ou les feux de forêt, par exemple. Et également l'empreinte laissée par les animaux qu'on laisse paître comme ça librement.
Avec l'aval des autorités nationales et locales en Éthiopie, l'ancien étudiant à Sciences Po Toulouse a donc fait sa valise. Il a passé plusieurs mois dans la région du Tigré auprès des communautés chrétiennes afin de les aider à préserver leur forêt de Boswellia, dont ces hommes, ces femmes, tirent de surcroît la moitié de leur revenu annuel.
La collecte de l'olibanum se fait exclusivement en forêt naturelle, où les hommes installent un campement pour la durée de la récolte. Elle a lieu en fin de saison sèche, c'est-à-dire d'avril à fin juin. La première étape consiste à enlever la partie superficielle de l'écorce sur une petite surface en tapant le tronc à l'aide d'un outil au bord tranchant. Les entailles sont pratiquées 3 par 3, suivant une ligne verticale, et l'opération est renouvelée tout autour du tronc. À peine raclé, le tronc pleure. La sève, qui commence à perler, va rapidement former une coulée. Chaque semaine, pendant environ 3 mois, les hommes taperont les arbres et en détacheront les larmes, tout en prenant soin de ne pas trop entailler l'écorce et ainsi préserver la vie de l'arbre.
Ce savoir-faire, les communautés chrétiennes du Tigré les maîtrisent depuis longtemps avec le projet Boswellia. Il fallait dès lors apporter une valeur ajoutée à leur travail, à leurs connaissances, leur fournir des techniques bien spécifiques pour maximiser la protection des ressources.
Il y a un apport scientifique et technique conséquent. Couper des branches, essayer de replanter ça dans le cadre de pépinières qui vont être installées autour du village. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait normalement. Ça peut pousser naturellement, mais un des paramètres très importants de conservation, c'est réduire l'interférence animale et humaine. Des petites racines peuvent sortir, des germes peuvent sortir, mais elles vont être automatiquement mangées, par exemple, par des animaux qui passent au travers la forêt. Donc, il est important de fermer ces forêts. Il ne s'agit pas de fermer avec des barbelés, il y a des gens autour, des gardes, déjà présents, qu'on a déjà rencontrés. Ces gens sont complètement conscients du fait qu'il faut réduire toute cette interférence. Il y a également des recommandations techniques en termes de collecte. Il s'agit de percer le tronc à certains endroits. Souvent, il s'agit de 3 endroits du tronc, pas plus, parce que finalement, c'est saigné. Il s'agirait d'abîmer l'arbre. Hein. Donc, voilà, les recommandations tournent autour de ça, la collecte. La régénération, et tout ça, c'est un apport technique, scientifique, un appui technique, et des recommandations que l'on inscrit au sein du projet, en accord avec la vice-présidence de la région du Tigré, et également le bureau d'agriculture et de développement rural. Donc on est vraiment en communication très régulière avec ces personnes.
Pour Julien et ses collègues, il s'agissait aussi de permettre aux producteurs locaux de transformer la matière première sur place et de la vendre à leur projet, le projet Boswellia, à un prix éco-solidaire, 20% de plus que le marché. Une augmentation importante, une stabilisation aussi de leurs revenus pour ces communautés. Julien Charbonnier nous décrit leur réaction.
Un des premiers villages, celui sur lequel on va focaliser notre attention, c'est le village de Djiké, au centre du Tigré. Autour de ce village s'agglomèrent plusieurs centaines d'hectares de forêt. 500 personnes habitent ici. Alors ces gens ont vraiment des difficultés au niveau d'obtenir de l'information. Nous, on arrive avec des études solides. On a accès au marché mondial, par exemple, pour l'encens. On sait qui achète, à quel prix. Ces gens ne connaissent pas. Il y a vraiment une asymétrie d'information. Les débouchés, ils les connaissent très peu, donc ils vont vendre localement à travers des coopératives au prix qu'on va leur proposer. Un projet qui arrive avec un nouveau débouché, des prix élevés, ces gens de suite sont incités à produire mieux et à vendre à cette personne qui propose plus. C'est des gens qui parlent lentement, ce n'est pas forcément des gens qui vont sauter sur le premier projet. En tout cas, le fait que l'on soit venu sur le terrain, c'est quelque chose que personne n'avait fait. Et ça, c'est des gens qui nous ont accueillis à bras ouverts, tout en écoutant, réfléchissant, testant aussi nos hypothèses. Il ne s'agit pas de prendre pour argent comptant tout ce que l'on va proposer. Donc c'est vraiment un échange bilatéral. Ils connaissent leurs ressources, ils connaissent leur potentiel. Nous avons des critères de qualité, tout ce qui est conditionnement, certification, tout ce qui est traçabilité par exemple. C'est un échange mutuel. Et toute personne qui arrive avec un projet de conservation, des prix fixes, stabilisé et vraiment transparent, c'est quelque chose d'important, très important pour eux.
Cette coopération de savoir et de profit, économique et durable, est désormais mise sur pied. Avis maintenant au diocèse et à leurs économes. L'encens solidaire du Tigré sera disponible dès le mois de janvier, pile pour l'épiphanie, quand les 3 rois mages apportèrent à l'enfant Jésus de l'or, de la myrrhe et de l'encens.